C'était le journal de Julien Lagache que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Pour un journaliste, donner une fausse information, eh bien c'est un peu comme si le sol se dérobait sous ses pieds. C'est grave, c'est un traumatisme, c'est sans doute notre pire cauchemar. Et cela n'est pas sans conséquences, mais cela arrive et ça n'enlève rien au sérieux, au professionnalisme, à la fiabilité de l'énorme masse d'informations données chaque jour par les agences, les radios, les télés, les journaux. Alors c'est vrai, l'AFP a annoncé samedi dernier à tort la mort de Martin Bouygues et c'est terrible pour la personne et les proches de cette victime concernée par la fausse information, une fausse information qui a aussi ébranler la prestigieuse agence France Presse, même si l'AFP, c'est aussi des scoops, de grands scoops. La mort de Staline en 1953, les otages israéliens lors des Jeux de Munich en 1972, le crash du Concorde en 2000, la fuite du Tunisien Ben Ali et la photo du cadavre ensanglanté de Kadhafi, le Libyen, en 2011. Il n'empêche, l'annonce erronée de la mort de Martin Bouygues a été un choc, une faute inacceptable, a indiqué par tweet le PDG de l'agence Emmanuel Hoog, dont l'AFP tire en ce moment les conséquences. Quelles sont les difficultés d'informer pour les journalistes? On en parle ce matin dans le secret des sources sur France Culture avec nos invités. Michèle Léridon, directrice de l'information de l'AFP, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Alice Antom, qui va nous rejoindre dans un instant, journaliste spécialiste des médias, qui est également chroniqueuse dans l'émission Le Mag Média sur France 5 et directrice adjointe également de l'école de journalisme de Sciences Po. Alexis Delcambre, journaliste au Monde, responsable du pôle Technomédia. Vous suivez cette affaire et les conséquences, notamment à l'AFP, de l'annonce erronée de la mort de Martin Bouygues. Bonjour.
Bonjour.
Nos deux regards extérieurs, aujourd'hui dans le secret des sources, Fabrice Lorvaux, avocat, spécialiste du droit des médias, et Thibaut Henton pour les images et le web. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy, avec aux manettes cette semaine, Bruno Gagnère. Le clin d'œil de Yacine Bouzard, rendez-vous incontournable en fin d'émission. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous, sur France Culture et dans le secret des sources.
Martin Bouygues, le patron du groupe Bouygues, il est mort ce matin dans sa résidence de l'Orne.
On va revenir sur la mort de Martin Bouygues qu'on a appris il y a seulement quelques minutes. Le PDG du groupe Bouygues, spécialisé dans la construction, dans les télécoms, dans la communication.
Il serait mort également ce matin dans sa résidence de l'Orne près d'Alençon. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le maire de la commune voisine de Saint-Denis sur Sarton.
Je vais vous interrompre tout de suite parce que visiblement la situation est un petit
Bien
peu
sûr.
Confuse.
On a Nous pas présentons nos excuses aux téléspectateurs. Après donc cette information donnée par l'agence France Presse.
On n'a pas de confirmation officielle de ce décès de Martin Bouygues et visiblement TF1 est en train de démentir cette terrible information.
Le maire de La Roche-Mabille a été contacté par un journaliste. Il y a bien un monsieur Martin qui est mort ce matin, mais ce n'est pas Martin Bouygues.
Le secret des sources.
Voilà extrait des différents journaux télévisés et radio samedi dernier pendant une grosse heure hein, entre 14h28, 14h30 et 16h, moment qui sépare l'annonce erronée de la mort de l'industriel Martin Bouygues et le démenti officiel. Michèle Léridon, directrice de l'information de l'AFP, et nous avons la chance de vous avoir avec nous ce matin. Michèle Léridon, une enquête interne à l'AFP est menée en ce moment. Est-ce que vous savez aujourd'hui, avec une semaine de recul, comment cette information, cette rumeur ou cette alerte vous arrive à l'AFP? Quel est le point de départ de cette histoire qui conduit à la dépêche de 14h28? Martin Bouygues est décédé samedi matin dans sa résidence de Lorne, avec entre parenthèses la source mairie.
Eh bien, effectivement, on a entendu tous les protagonistes de cette malheureuse affaire. Donc, en effet, depuis le tout premier qui envoie un signal, disons, pour dire que pour donner cette information, mais avec plein de conditionnels et avec plein de réserves, jusqu'à la validation. Je dois dire que nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt comment est-ce qu'elle a fini par partir au client. Parce que si vous voulez des rumeurs, je pense que dans tous les médias, c'est pareil, on en reçoit, et à charge pour le journal, pour la rédaction, de la vérifier et après de décider de la diffuser ou pas. Donc c'est vrai que pour nous, tout le côté ce qui est grave dans l'histoire, c'est d'avoir diffusé l'information. Après, qu'au départ, il y a eu un tuyau crevé, ben, ce sont des choses qui arrivent. Et au fur et à mesure de cette enquête, on se rend bien compte de toutes les petites erreurs, les petites défaillances, tous les grains de sable, le côté faute à pas de chance, etc. Mm-hmm. Et puis les erreurs quand même très très importantes qui sont commises et qui de non-respect de nos procédures.
Mais au départ, c'est ce qui nous arrive à tous les jours, c'est quelqu'un qui nous dit... C'est ça. J'ai entendu dire que...
Voilà, c'est ça. Sauf que pour notre malchance, la personne qui au départ reçoit cette rumeur est quelqu'un qui est très très bien informé à l'agence. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'informations, c'est un journaliste. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure que le message passe de lui à sa chef de service, de sa chef de service à la rédaction en chef, de la rédaction en chef aux différents services concernés, puisqu'il n'y a pas eu que le bureau de Rennes, le service économique, etc., ont essayé de confirmer bien sûr de leur côté. On se rend compte que le côté un petit peu aléatoire... de côté rumeur, conditionnel, etc., c'est perdu. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que l'info passait, elle devenait de plus en plus sûre finalement, et que les journalistes se sont mis en mode confirmons, sortons l'info plutôt que vérifions. Ça veut dire qu'effectivement, les journalistes, plutôt que de chercher à vérifier l'information, de se poser des questions, de douter, ce qu'on a rappelé beaucoup ces derniers jours, la nécessité de douter, de questionner, eh bien, se met à essayer de confirmer et de sortir l'information. Et c'est ça qui a péché finalement tout du long. Après, les petites anecdotes avec le maire qui n'a pas compris, etc., c'est effectivement des choses qui ont rajouté dans la confusion et qui nous ont amené à l'erreur. Mais l'erreur fondamentale, c'est de ne pas avoir cherché à confirmer, puis après diffuser une information avec cette seule source, de toute façon. Et en plus, même si elle était vraie, je pense qu'il ne fallait pas la donner avec cette source aussi, parce qu'il s'agissait de la mort d'un homme. Mmh. Donc voilà, on pourra en reparler.
Le coup de fil à TF1 ou à Martin Bouygues?
Alors, il y a eu plusieurs choses. Le coup de fil, moi j'ai appelé effectivement la directrice de l'information de TF1, mais hélas, moi j'étais prévenue un petit peu tard, donc je l'ai appelée une fois que le mal était fait. Donc elle a démenti, et c'est comme ça qu'effectivement on a démenti sur les fils et tué toute notre série de dépêches. Et puis par ailleurs, notre président Emmanuel Hogue a appelé un peu plus tard Martin Bouygues pour lui présenter ses excuses.
Alexis Delcambre, du Monde, alors vous avez suivi toute l'affaire bien sûr, et dès que l'urgent tombe, tous les médias embrayent, y compris vous.
Oui, absolument. En quelques minutes, la plupart, on va dire, des sites d'information envoient des alertes reprenant l'information donnée par l'AFP. Je dirais que c'est un classique de la vie des rédactions que de reprendre les dépêches de l'AFP sans estimer à ce stade qu'il est utile de les confirmer. Je pense que c'est encore plus vrai dans le cas de disparition, où vraiment, voilà, c'est une source qui fait foi. Simplement, c'est vrai qu'on se rend compte dans cet épisode de l'énorme écho que peut avoir, même un samedi 28 février de vacances scolaires, etc., que peut avoir une dépêche AFP immédiatement répercutée en 5 à 10 minutes, donc par des milliers, millions d'alertes qui tombent sur les téléphones mobiles et qui donnent une ampleur tout autre finalement à l'erreur originelle.
Alice Antome, vous travaillez pour Média Le Mag sur France 5, spécialiste des médias. C'est normal selon vous qu'avec les réseaux sociaux, les alertes sur les téléphones, on reprenne l'information, ça parte comme un feu de broussaille?
Finalement, là, c'est peut-être un des rares cas où le numérique n'a pas grand-chose à voir finalement avec cette histoire, parce que là, en l'occurrence,
pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément bien le fonctionnement de l'AFP avec les médias, en fait, l'AFP, c'est vraiment un pourvoyeur d'infos qu'achètent les différents médias. Donc, en fait, l'AFP ne s'adresse pas directement à l'audience, il y a déjà le filtre des rédactions. Et c'est vrai que dans les rédactions, on n'apprend pas spécialement à vérifier les dépêches qui proviennent de l'AFP et qui sont d'ailleurs payées par les médias. Si on arrivait dans cette nouvelle ère, ça serait vraiment un gros changement de méthode et enfin, je ne l'espère évidemment pas pour l'AFP. Donc non, ça n'a rien à voir avec le numérique. Après, je crois que par rapport à cette affaire, la spécificité, c'était que ça soit un samedi. Un samedi, dans toutes les rédactions, que ce soit à l'AFP ou au Monde.fr, ou au Monde ou ailleurs, souvent, on est malheureusement en effectif un petit peu plus réduit. Donc, effectivement, on peut avoir, malheureusement, peut-être des garde-fous moins nombreux et une procédure un petit peu allégée. Donc, c'est pas de chance quand, effectivement, ça provoque ce genre d'erreur massive.
Mais enfin, il y a quand même des gens de permanence, joignez-vous le téléphone, dans tous les médias.
Mais malheureusement, il y a des réflexes qui peuvent être décuplés quand vous êtes 10, 15 à être à la rédaction en chef. Et quand vous êtes 2, 3, ce qui est le cas tous les samedis, tous les dimanches en général, sauf quand, par exemple, il y a des élections, c'est vrai que l'erreur, là, du coup, va forcément... vous avez plus de chances, statistiquement, de faire des erreurs. Et c'est ça le drame, je pense, c'est qu'effectivement, ça a eu lieu un samedi. Et si, enfin, voilà, c'est facile de supputer après coup, mais si ça avait été un lundi ou un mardi, sans doute à l'AFP, il y aurait eu un process un petit peu plus lourd. Contredisez-moi si je me trompe.
Absolument, bien sûr.
Et peut-être au Monde aussi, d'ailleurs. Peut-être que vous auriez aussi peut-être juste envoyé un SMS à TF1. Voilà. Parfois, c'est lié aussi au week-end.
Oui, il y aurait peut-être eu les quelques secondes de doute ou de questionnement supplémentaire, effectivement, qui peuvent faire la différence dans un cas comme celui-là.
L'AFP, pour les clients, les abonnés, c'est un peu parole d'évangile aussi.
Je dirais que ça dépend sur quoi, mais je dirais que sur des informations aussi factuelles qu'une disparition, quand bien même il s'agit d'informations tragiques, mais pour des informations aussi factuelles, oui, sur du reportage, sur des informations qui font davantage appel à des notions d'interprétation, ça l'est moins, mais sur du factuel, oui. Et alors, c'est vrai que bien souvent, dans la vie des rédactions, en particulier des rédactions numériques, le fait que l'AFP confirme ou donne une information est régulièrement un critère déclencheur du fait de la traiter ou de la reprendre. Parce que c'est l'AFP et que c'est une source qui accrédite. Et puis aussi, voilà, si on veut aller jusqu'au bout, parce que probablement que dans l'inconscient des journalistes ou de la rédaction, ça équilibre la responsabilité qu'on prend dans le fait de choisir de traiter une information. Et donc, voilà, là, c'est vrai que l'AFP, ce n'est pas du tout une source comme les autres. Si les journalistes de permanence au Monde ou ailleurs avaient vu cette info ou cette rumeur sur la mort de Martin Bouygues ailleurs, sur le web, sur un quelconque compte Twitter, évidemment que ça ne se serait pas du tout passé de la même façon et que la reprise n'aurait pas été aussi systématique.
Michel Héridon, ce que dit Alexis Delcambre, ça vous réconforte, mais ça vous engage aussi.
Oui, absolument, bien sûr. Bon, on est tout à fait conscient de ça, effectivement, puisque nous, on trouve tout à fait normal que les gens s'appuient sur nous. Effectivement, comme vous disiez, ils payent un service, ils payent justement une crédibilité, une certification. Voilà, on a le plus grand réseau avec des journalistes dans le monde entier, 1500, de son bureau, 5000 dépêches par jour. Donc, oui, mais ça, c'est, le 5000 dépêches, ça, c'est pas forcément un crédit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a des gens sur le terrain, etc. Donc, c'est ça que les médias achètent. Donc, c'est la crédibilité, la fiabilité. Donc, c'est normal qu'on est là pour ça et c'est normal qu'ils se fient à nous.
Alors, on va parler dans un instant de la façon dont on valide et l'échelle de validation de l'information à l'AFP. On écoute d'abord ce reportage d'Étienne Monin.
Bonjour, et pour commencer ce journal, le patron du groupe Bouygues n'est absolument pas mort. Déclaration d'un porte-parole de TF1 à l'agence Reuters. Alors Étienne Monin, que s'est-il passé?
L'information est donnée par l'agence France Presse, 14h27. Une dépêche en urgence, c'est une dépêche très raccourcie. Un petit peu plus tard, nouvelle dépêche signée du bureau de Rennes de l'agence France Presse. Le décès est annoncé sur la commune de La Roche-Mabille, d'après le maire d'une commune limitrophe, celle de Saint-Denis-sur-Sarthon. Il y a donc une source, le maire de la commune de Saint-Denis-sur-Sarthon. Il dit qu'il a bel et bien été contacté par un journaliste, qu'il a bien été témoin indirect d'un décès ce matin sur la commune de La Roche-Mabille. Mais il ne s'agissait pas de Martin Bouygues, il s'agissait de Monsieur Martin, Daniel Martin. Le maire parle donc d'un quiproquo incroyable.
Il y a un journaliste qui me dit « Monsieur Martin Bouygues est décédé chez vous ». Ah oui, monsieur, j'ai un monsieur Martin qui est décédé ce matin, oui. Moi, après le cours, on m'a parlé d'un monsieur Martin, on m'a parlé de Martin, oui. On m'a parlé d'un Martin, j'ai dit oui, il y a un monsieur Martin qui est décédé, ce que je savais, c'est tout. Et donc, il est parti une mauvaise information, quoi. Hein.
Mais voilà. Est-ce que monsieur Bouygues a une résidence sur la commune de La Roche-Mabille?
Il n'a jamais eu de résidence à La Roche-Mabille. Et après, voilà, hein, ça s'arrête là, quoi.
Voilà un reportage d'Étienne Monin diffusé samedi dernier sur France Info avec le maire de Saint-Denis-sur-Sarthon, Michel Julien. Michel Léridon, vous vouliez apporter une précision à ce qu'on vient d'entendre?
Parce qu'il y a eu, je veux absolument pas polémiquer avec le maire, parce que encore une fois, de toute façon, il aurait ce n'était pas une source suffisante. On n'aurait jamais dû donner cette information avec cette source-là, c'est absolument évident, notamment aussi parce qu'il s'agissait d'un décès, donc il n'y avait qu'une source fiable, c'était le groupe Bouygues, c'était son groupe, et encore à un niveau assez élevé, ou alors son entourage très proche, si on était absolument sûr de parler effectivement à un entourage très proche. Donc de toute façon, ce n'était pas, donc c'est pas trop le sujet. Simplement, non, j'ai un peu sursauté parce que je sais que par la suite, il a dit, on m'a pas dit Monsieur Martin Bouygues et tout. Et là, j'ai vu que dans sa première phrase, il dit, on m'appelle pour me demander si Martin Bouygues est mort, et je réponds oui, Monsieur Martin est mort. Bref, ils se sont pas compris et c'est vrai que ça a beaucoup contribué, bien évidemment, puisque c'est ça qui a donné un peu le coup de tampon. Mais une fois, il y a des procédures, des choses plus graves qui sont produites, qui ont provoquer l'erreur.
Vous avez dit cette journée marque pour des années, voire des décennies, l'histoire de l'agence. On parle de traumatisme en ce moment de l'AFP. Justement, cette échelle de validation, les autres erreurs plus graves dont vous parlez, Michel Léridon, lesquelles sont-elles ?
Il y a eu le fait de ne pas attendre la communication du groupe Bouygues. Je répète que même si son dirigeant avait été décédé, j'estime qu'on n'a pas à faire de scoop là-dessus. Un groupe a aussi le droit d'avoir le temps de prévenir de la famille. Il n'y a pas de raison d'être absolument plus rapide que le groupe lui-même ou que TF1 sur la mort de son dirigeant. Je vois pas l'intérêt. Il y a eu aussi beaucoup de failles sur la réflexion collective, parce qu'en effet, les personnes étaient peu nombreuses et pour différentes raisons, elles n'ont pas fait remonter l'information, elles n'ont pas questionné, etc. Elles n'ont pas osé ou elles ont voulu prendre entre guillemets leurs responsabilités. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y avait très très peu de personnes pour décider d'envoyer une information qui avait un très très gros impact. Donc clairement, il fallait là aussi, même si c'était vrai, de toute façon, il fallait un petit peu prévenir qu'on la diffusait. Et encore plus si en effet il y avait des doutes et on se rendait bien compte. Et on se rend compte quand j'interroge tout le monde que tout le monde a dit oui, il y avait une petite gêne. Et puis petit à petit, il y a une émulation qui se fait dans le mauvais sens. Et il n'y a personne qui dit on va peut-être poser la question à quelqu'un d'autre, on va peut-être appeler. Il y a du travail à faire. Et puis effectivement, répéter encore une fois que la fiabilité passe avant la rapidité.
Alexis Delcambre.
Oui, aussi pour compléter cette réflexion, une question sur la rapidité. Finalement, comment est-ce que vous expliquez que qu'il y ait eu le besoin d'envoyer l'alerte alors que l'agence était... seul sur le coup, parce que là on n'est pas comme c'est le cas autrement en général, dans des contextes où il y a un effet de concurrence et voilà, là c'est pas le cas, alors pourquoi finalement prendre la décision de le faire?
Vraiment, vous avez bien fait de venir, Michel Léridon, ce matin.
Non, mais c'est une bonne question et je l'ai posée, je dois dire, parce qu'en effet, on accuse beaucoup les réseaux sociaux de faire la pression, que c'est terrible, etc. Là, en l'occurrence, les réseaux sociaux, ils devaient nous servir d'alerte dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a vu qu'il n'y avait rien et pour cause, qu'il n'y avait pas la moindre rumeur, je crois, ni sur les réseaux sociaux, ni ailleurs. Ça aurait dû, non seulement, en effet, ça nous exonérer de toute volonté d'aller si vite, mais en plus nous alerter quelque part que c'était un peu louche qu'il n'y ait rien, parce que maintenant, en effet, voilà, il peut y avoir quand même des petites choses qui fuitent. Donc, franchement, je n'ai pas l'explication. Et la personne intéressée me dit, je sais pas, elle s'est retrouvée dans... Voilà.
La plupart des journalistes sont sur Twitter, sont sur les réseaux sociaux.
Vous avez plein de tweets qui ne méritent même pas qu'on s'y arrête une seconde.
C'est un monde qui bouge, la révolution numérique est là, ça va très vite.
Et nous, nous sommes confrontés à ça, évidemment, beaucoup, nous autres journalistes. C'est la rapidité de la transmission d'une information.
Le secret des sources.
Les réseaux sociaux, la rapidité d'information, sauf que, vous nous dites, Alice Antome, que ben, ce samedi dernier, les réseaux sociaux n'y sont pour rien, ce que nous dit Michel Léridan également. Il empêche la plupart des journalistes sont sur Twitter. Twitter, je crois que vous disiez dans un article, fonctionne comme une supra-rédaction où les règles ne sont pas les mêmes que dans une rédaction. Mais il y a quand même la concurrence entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux.
Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est particulier dans le cas de l'affaire qui nous occupe. C'était un céphalogramme plat sur les réseaux sociaux, sur Wikipédia aussi, qui a la réputation souvent d'annoncer des morts et des non-morts d'ailleurs par erreur. Là, pareil, il n'y avait rien. Donc effectivement, comme le dit Michel Léridon, il y avait quelque part là un contrepoint intéressant qui pouvait faire partie du spectre analysé par les journalistes de l'AFP pour justement décider d'y aller ou de ne pas y aller. Et aussi, je dirais par extension, des rédactions qui reçoivent l'alerte de l'AFP, qui eux aussi, malgré tout, peuvent avoir cette culture du doute, même si Alexis Delcambre le souligne à raison hein, sur les disparitions. L'AFP est plutôt considérée comme fiable. Mais le fait que ça ne soit pas annoncé ailleurs, que personne, ça ne bruisse pas, voilà, ça devait être normalement un signal intéressant. Après, dans l'absolu, oui, c'est vrai que la donne a changé. Vous le savez bien que le temps réel de l'information, on le répète assez partout, c'est devenu voilà, une espèce de moulinette très difficile à vivre d'ailleurs pour les rédactions, parce que vous êtes sans arrêt dans ce dilemme entre voilà, dans quelle mesure j'essaye de donner une information le plus vite possible, tout en prenant le temps, effectivement, de la vérifier. Et sans arrêt, vous avez ce dilemme-là avec lequel jongler, sachant que quand même, quand on fait une erreur, le rétropédalage est non seulement impossible, mais en plus, vous allez le payer pendant des années. Je veux dire, l'AFP ou des journalistes individuellement, voilà, ce sont des erreurs qui coûtent vraiment très très cher. Donc honnêtement, moi, ce que je dis aussi, puisque je travaille à l'école de journalisme de Sciences Po aux étudiants, il vaut mieux être un petit peu moins rapide, mais ne pas se tromper, plutôt que l'inverse. C'est vrai qu'il y a d'autres dilemmes aussi. Il y a ce dilemme.
Le mieux est quand même de donner une info juste le plus rapidement possible.
Oui, mais parfois, ça n'est pas possible. Et effectivement, il vaut mieux prendre 2 minutes ou 3 minutes dans la vue pour avoir la confirmation. Parce qu'encore une fois, ce qu'on joue, ce n'est pas seulement la vitesse à laquelle vous donnez l'information, c'est la crédibilité non seulement de votre maison, mais aussi de vous en tant que journaliste. Et honnêtement, vous savez bien que sur le web, ça reste mais toute la vie. Je veux dire, pendant des années, il y aura lié à cette empreinte numérique associée, Martin Bouygues, erreur de l'AFP sur sa mort. Malheureusement, ce nettoyage-là n'est pas possible.
Michel Léridan, vous vouliez intervenir.
Oui, je voulais dire que effectivement, au contraire, l'émergence des réseaux sociaux nous pousse pour privilégier encore plus la fiabilité. C'était déjà le cas avant. On a toujours, et ça on le remartèle encore, c'est-à-dire que la fiabilité doit, et la crédibilité doit primer absolument sur la rapidité pour plusieurs raisons. D'abord parce que justement, en effet, vu le foisonnement, vu le nombre de gens qui tweetent, etc., on peut même nous n'arrivons plus vraiment à le concurrencer. Donc, quelque part, voilà, on s'en fiche un peu des 1 minute, 2 minutes auxquelles on était très attaché il y a une vingtaine d'années, où on regardait par rapport à nos concurrents, et puis Reuters, etc. Maintenant, c'est beaucoup moins important. Et en revanche, est encore plus important notre rôle de balise que, effectivement, dans tout ce brouhaha, dans tout ce qu'on peut lire, c'est de savoir à la fin de la journée qu'est-ce qui est vraiment arrivé quelque part. Et donc... C'est notre valeur. Donc, finalement, la rapidité joue encore moins. Sauf qu'en effet, c'est vrai que dans notre ADN, il y a quand même, de toute façon, j'ai pas de souci à dire à nos équipes qu'il faut privilégier la fiabilité, parce que dans notre ADN, il figure de toute façon la rapidité. Pourquoi ? Parce qu'on est grossiste et que donc on n'est pas censé arriver après les journaux concerts. Donc, on est censé donner l'information quand même en premier. Et je voudrais juste ajouter que quand même, pendant toute la séquence, notamment des attentats, de l'attaque de Charlie, etc. Justement, on a fait preuve de beaucoup de responsabilité, à la fois pour des raisons éthiques, mais aussi, et ça va ensemble, des raisons journalistiques. Et, par exemple, on était en retard, je le dis, non pas 2-3 minutes, mais beaucoup plus, sur le nombre de victimes et sur les noms, surtout, des victimes de l'attaque, de la
fusillade. Michel Hédon, c'est peut-être parce que l'AFP se trompe jamais que cette fois-ci, on le remarque avec beaucoup plus d'acuité.
Ben, je vous remercie. Oui, ça m'est plus difficile de le dire parce qu'on sent moins au moment de... Oui, c'est pas bien le moment de fanfaronner, mais effectivement, on peut imaginer que c'est proportionnel à notre fiabilité, oui.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Thibaut Henton, pour les réseaux sociaux, Thibaut, vous êtes aussi intéressé à cette affaire et vous aussi, vous avez appelé le maire de Saint-Denis sur Sarton.
Oui, parce que je vous avoue que je m'attendais à trouver davantage de choses sur Daniel Martin, le Martin qui est vraiment mort, dans la presse, dans la masse de papiers rédigés dans l'urgence pour pointer du doigt les écueils de l'urgence, mais rien. Pas même un petit portrait, tout juste un avis de décès paru dans Ouest France et reproduit sur le site danscoeur.fr. J'ai donc, chose incroyable, décroché mon téléphone et appelé monsieur le maire de Saint-Denis-sur-Sarton, lequel m'a gentiment rappelé, mais attention, a-t-il averti d'emblée, par politesse uniquement. C'est qu'il en a soupé des journalistes depuis une semaine. Rien que samedi dernier, il les a comptés, il a reçu 31 coups de fil. Tout juste endeuillé, la famille Martin subit elle aussi la furie médiatique. On est rentré dans leur propriété, on a fait des photos, il s'en serait bien passé. Monsieur Martin a été inhumé jeudi dernier et... C'était très digne, me confiait le maire. Je n'ai pas réussi à en savoir beaucoup plus. Et puis, je commençais à me sentir un peu sale, charognard parmi les charognards. Mes ailes ont donc logiquement poussé. J'ai malgré tout tenté un « que faisait Monsieur Martin dans la vie ?» Réponse, il était dans les affaires, voilà. Tiens, pensais-je, encore un point commun entre Monsieur Martin et Monsieur Bouygues, qui aiment, comme chacun sait, beaucoup les affaires, surtout quand elles ont lieu au Turkménistan. Mais alors, qui sont les Martins en vérité ? Des gens très discrets qui aspirent au calme et à la sérénité, m'a-t-il répondu, un peu excédé. Lui-même ne pensait pas tomber, je cite, dans un bourbier pareil, une situation burlesque. Tout étonné de voir comment la communication peut fonctionner. C'est effrayant, ça va trop vite. On aurait dû approfondir cette situation. Quant à une éventuelle propriété de M. Bouygues sur son territoire, déjà démenti par le porte-parole de la maison Bouygues, rien, jamais entendu parler. Pourtant, s'il avait une maison dans la région, même s'il voulait passer inaperçu, ça se saurait.
Thibaut Henton. Et en tout cas, même si c'est rare, ce n'est pas la première fois qu'une fausse information est diffusée.
Jeudi dernier, le quotidien de Paris a annoncé la mort de Marcel Dassault. Aussitôt, sans même vérifier la source de leur information, les chers confrères ont démenti. Fausse nouvelle, annoncent les radios dès le journal de 8h. Marcel Dassault n'est pas mort. Une heure plus tard, Marcel Dassault lui-même téléphone à une rédaction. Il prétend qu'il est vivant. Alors, je vous le demande, qui croire ? Sans vouloir prendre parti, je puis témoigner, pour avoir assisté il y a 5 ans à une projection de film à côté de M. Dassault, que ce dernier ne donnait déjà plus aucun signe de vie. Quoi qu'il en soit, et quand bien même Marcel Dassault ne serait pas mort, il finira bien par mourir un jour. Alors, chers confrères, je vous en prie, cessez d'enfoncer un peu plus le journal de Philippe Tesson, qui vient déjà d'amortir un sacré coup en basculant malgré lui dans la majorité, au risque de devenir aussi chiant que le matin, le journal qui a perdu tout naturel en revenant au galop. En réalité, le quotidien de Paris a été le premier journal de toute la presse française à annoncer la mort de Marcel Dassault. Et j'attends de pied ferme un démenti. Tout le reste n'est que verbiage et papotage qui sont les deux mamelles de Jour de France, le journal de Caroline et Stéphanie Fondusky, qui est évidemment la revue glacée préférée des coiffeurs, car les pellicules glissent dessus quand les Grimaldi glissent dedans.
Voilà, c'était il y a 30 ans, Pierre Desproges sur France Inter pour ses chroniques de la haine ordinaire. On peut aussi rappeler la célèbre formule d'Yvan Audouard, homme de lettres, écrivain et journaliste pendant 30 ans au Canard Enchaîné. Une information plus un démenti, eh bien ça fait deux informations pour le prix d'une et c'est toujours la fausse qui reste dans les mémoires. Come on now! Everybody! Get down!
stage. The world's ooh, his teenager. Clown prince, but no ass kissing. But you don't know what you've been missing. There's a brand new dance that's going around. Get with it, Doc. We got to do it now. I get down. Last year's Zamboni, baby. Is that clear? Hey, man, world got changed. Think you're so good looking, don't got to explain. All fellas, you got to realize that's the funkiest man alive.
Voilà un peu de rock et de puissance ce matin sur France Culture avec le groupe The John Spencer Blues Explosion et le titre que l'on vient d'entendre, Do The Get Down, extrait de leur nouvel album qui paraîtra le 30 mars prochain. Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste du droit des médias. Les médias peuvent se tromper et donner de mauvaises informations. En cas d'erreur, Fabrice, quels sont les recours dont dispose la victime ?
On doit d'abord rappeler que l'information erronée, c'est un peu la hantise de la société démocratique, et c'est pour ça qu'on trouve toute une série de délits dans différents domaines. On peut citer en droit électoral la diffusion de fausses nouvelles qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs peut entraîner l'annulation du scrutin. On a en matière économique, financière, sur les fausses informations sur les instruments financiers. En matière de sécurité nationale, c'est la fourniture d'informations fausses aux autorités civiles qui est un délit pénal. On a la dénonciation calomnieuse, la dénonciation imaginaire, et on a aussi en matière de presse des sanctions qui sont prévues. Alors, en matière de presse, on a un sacro-saint principe qui est que les abus de la liberté d'expression, parce que publier une fausse information, c'est un abus de la liberté d'expression, eh ben, ne peuvent être réprimés que pour les délits qui sont prévus dans la loi sur la presse. Et dans la loi sur la presse, vous n'avez que deux types de délits qui sont prévus. La première, c'est la diffamation, c'est-à-dire une information qui porte atteinte à l'honneur et à la considération. Donc, ce n'est pas seulement une information fausse, mais c'est une information qui a l'intention de nuire. Et la personne qui est poursuivie ne peut se dédouaner, si j'ose dire, que si elle prouve l'exactitude des faits. Donc, si vous ne prouvez pas l'exactitude, eh bien, là, vous êtes condamné. Mais c'est le seul cas où une victime d'une information fausse peut être condamnée. Parce qu'il y a encore un autre grand pan du droit de la presse qui est le délit de fausse nouvelle, mais caractéristique particulière, ce délit-là, vous ne pouvez pas vous constituer partie civile. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délit ? Eh bien, c'est le fait de diffuser une nouvelle, c'est-à-dire annoncer un événement qui est fausse, et de le faire en agissant de mauvaise foi. C'est-à-dire que celui qui va publier sait que la nouvelle est fausse. Et que cette nouvelle, autre condition, eh bien, elle va troubler ou qu'elle peut prouver la paix publique. Donc, il s'agit effectivement de cas qui sont extrêmement limités et de cas qui sont assez rares.
Quels exemples on peut citer, Fabrice ?
Alors, pour les délits de fausses nouvelles, bon, c'est quand même assez rare, hein, on doit le rappeler. On peut citer un cas d'information manipulée. Là, c'est en 1986, pendant les manifestations de Vaquet, un journaliste publie en disant « Un journaliste de l'AFP m'a dit que des gens casqués sortaient de l'hôtel de ville et sont partis vers la manifestation. » Sous-entendu, est-ce que ce sont des provocateurs ? Alors que l'information, la vraie information, c'était d'abord une dépêche AFP, c'était pas un témoignage d'un journaliste, et la dépêche AFP disait il y a des gens casqués devant l'hôtel de ville. Voilà. Et donc là, ça a été un exemple de condamnation pour fausse nouvelle. On condamne aussi l'information qui est fabriquée. Un journaliste avait donné comme information que des jeunes délinquants avaient agressé des policiers en jetant sur eux un réfrigérateur. Et pour illustrer cette information, il avait joué une photo. Mais cette photo était en fait une scène reconstituée à l'aide d'acteurs. Et donc, là encore, on a considéré que c'était le délit de fausse nouvelle. Assez récemment, il y a une action qui est en cours, qu'il faut rappeler. C'est une action menée contre Mediapart suite à l'article Sarkozy-Kadhafi, la preuve du financement, où effectivement, il a été considéré que cette information ayant été publiée entre les deux tours des élections, qui avait peut-être peut-être, l'affaire est toujours en cours, donc soyons prudents, un délit de publication de fausses nouvelles. Voilà. Donc, en dehors de ces cas assez limités et assez restreints, la victime, en fait, ne peut pas venir demander aux médias la réparation du préjudice qu'elle pourrait avoir subi du fait de la publication de cette fausse nouvelle.
Pourquoi cette absence de sanction, et tant mieux pour Michel Éridan et l'AFP.
Mais... Oui, cette immunité, en fait, s'explique parce qu'elle permet de garantir l'effectivité de la loi sur la presse et de la liberté de la presse. Parce qu'on sait tous que la liberté de la presse est un élément essentiel pour la démocratie. Cependant, si les organes de presse pouvaient être poursuivis toutes les 5 minutes dès lors qu'une personne considérait que l'information était de nature à lui porter préjudice, les médias se retrouveraient englués dans des procès. Et donc, pour éviter et pour permettre l'effectivité de cette règle, on limite les sanctions au bénéfice de la victime, aux cas qui sont les plus graves, je veux dire. Mais bon, il est possible que cette immunité soit peut-être provisoire, parce qu'on a une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation qui, de nouveau, a l'air de remettre en cause ce sacro-saint principe de l'unicité des poursuites sur la loi de la presse. Donc ça, il y a peut-être une ouverture et une évolution sur cette immunité. Mais en tout cas, cette immunité, gardons aussi à l'esprit, et c'est ma conclusion, qu'elle est elle est relative parce qu'elle ne concerne que la victime. Hein. En d'autres termes, pas d'immunité pour le journaliste. Hein. Un journaliste qui commet une erreur en publiant une fausse information, ce n'est pas forcément ce qui va booster sa carrière. Ensuite, il y a une autre sanction possible, c'est celle du public qui peut se désintéresser du média. Et puis, pour une catégorie particulière qui est celle de l'audiovisuel, le CSA peut sanctionner, par exemple, une chaîne de télévision lorsqu'elle a donné une information fausse. On peut citer, en 2010, une chaîne de télévision nationale qui avait annoncé 2 fois le décès d'un enfant qui n'était pas décédé. Eh bien, elle a écopé d'une amende de 100 000 euros.
Merci Fabrice Lorvaux. Michel Léridon, pour l'AFP, après cette histoire, on met l'accent sur la fiabilité, vous nous dites, qui est la valeur numéro 1, qui prime sur la rapidité. C'est ça le message?
Oui, clairement. Oui, mais c'est vrai que c'est pas un message nouveau. C'est ce qu'on a répété. Maintenant, on va surtout voir comment il peut être encore plus imprégné les rédactions.
Alors, Marc Endenveld raconte dans Le Monde diplomatique que autrefois, lors de conférences de presse, eh bien, on attendait le journaliste de l'AFP qu'il soit là pour commencer. Aujourd'hui, c'est encore le cas.
Ça arrive encore. Oui. Ah oui. Je peux vous dire que ça arrive encore.
Alexis Delcambre, Alice Antome, on a appris également que le CSL a engagé une procédure d'analyse de cette anomalie. C'est une dépêche de l'AFP. Ils vont analyser l'anomalie, non pas vis-à-vis de l'AFP, c'est Olivier Schramek, le président du CSA, qui le dit, mais le Conseil va analyser la façon dont l'information a été reprise par les radios et les télés. Bonne idée.
Le CSA agit sur la petite partie de l'affaire sur laquelle il est compétent, c'est-à-dire ce qui a été diffusé sur l'antenne des radios et des télévisions. Voilà, donc, bon, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je ne sais pas, c'est leur travail, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça risque d'être assez limité dans la mesure où il s'agit simplement d'une reprise d'une information donnée à l'origine par l'AFP.
Alice Antome.
Oui, je crois que le débat et en tout cas les sanctions qui peuvent être prises le sont en général sans l'avis du CSA. Je pense que dans toutes les rédactions à la suite de l'affaire effectivement de la fausse mort de Martin Bouygues, il y a eu des savons qui ont été passés, des remontrances, une remise à niveau de toutes les règles, des réunions.
La chaîne LCI reprend l'information.
Et la dément, de la même façon, on se met à la place hein, du présentateur de LCI qui a dû vraiment passer une très très mauvaise journée et sans doute ça n'est pas fini. Donc voilà, on sait que même en dehors du CSA, les rédactions, heureusement, sont suffisamment responsables pour, ne pas faire l'économie justement des sanctions et des enquêtes qui doivent être faites sur des dysfonctionnements pour que ça ne se reproduise pas.
Allez, on change de sujet, Thibaut Henton, pour l'image de la semaine que vous avez retenue. C'est une robe dont vous allez nous parler, parce qu'on a vraiment beaucoup parlé de cette robe.
Je
ne
sais pas s'il y a eu une dépêche AFP sur le sujet.
Oui. Et des photos.
Très bien. Oui. Bon, oui, parce qu'en fait, je me suis dit qu'il fallait quand même évoquer à ce micro cette expérience partagée de la robe, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler. Et j'ai vérifié, elle n'a pas encore été citée à l'antenne de France Culture. Je vous raconte donc l'histoire de la robe, mot-clé The Dress en anglais, sur laquelle tout le monde s'est déchiré parce qu'il ne la voyait pas de la même couleur. Tout est parti du média social Tumblr, jeudi 26 février dernier. Une certaine
Swicht s'interroge à propos d'une robe qu'elle vient de croiser dans un magasin et pose la question suivante à la cantonade. Cette robe est-elle bleue et noire ou blanche et or? On n'arrive pas à savoir avec mes amis, ça nous fait flipper. Le soir même, son message va compter jusqu'à 140 000 visites par minute. J'ai fait une petite analyse sur Twitter en comparant sur un mois les occurrences de dress, Dieu en anglais et Dieu en arabe. Eh bien, sachez d'abord que les occurrences de Dieu en arabe surpassent largement les anglaises. 110 millions d'occurrences contre 20 millions sur le dernier mois. Quant à dress, la robe, elle parvient, l'espace d'un jour, à tutoyer Dieu. S'ensuit une immense vague d'articles, de nombreux sites se saisissant de l'aubaine jusqu'à cette question qui devait arriver. Pourquoi diable percevons-nous différemment les couleurs? Eh bien, parce que les perceptions varient selon les contextes et les individus autour de cette table. Par exemple, certains sont dichromates, d'autres trichromates ou tétrachromates, par exemple. Donc, on se penche ensuite sur la définition du contraste simultané, on admire des œuvres d'art cinétiques et on consulte le maître ouvrage de Johannes Itten paru en 1961, L'art de la couleur. Les perceptions varient selon les individus, les contextes, mais également selon les mœurs. On peut donc faire une histoire sociale des couleurs en s'appuyant sur des siècles de perception. En France, l'historien de la perception collective des couleurs, c'est Michel Pastoureau. Il était l'invité de Hors Champ pendant toute une semaine, fin 2013. J'ai écouté la dernière émission qui concerne directement cette histoire d'Europe puisqu'elle était consacrée aux couleurs jaune et or, où l'on apprend non seulement que le père Pastoureau était l'ami d'André Breton, mais également que la couleur jaune est devenue progressivement détestable, détestée après la réforme protestante. Il a alors fallu trouver une soupape et l'or est venu au secours du jaune. Bon, je ne vous raconte pas tout, mais je finis quand même avec cette phrase de Wittgenstein présentée par Pastoureau comme l'une des phrases les plus importantes jamais écrites à propos des couleurs, je cite... Si l'on nous demande que signifient les mots rouge, bleu, noir, blanc, nous pouvons bien entendu montrer immédiatement des choses qui ont de telles couleurs, mais notre capacité à expliquer la signification de ces mots ne va pas plus loin.
Elle est bleue, jaune ou blanche la robe?
Elle est bleuche.
Merci Thibault. Enton, à l'étranger, l'actualité de la semaine. Nous allons au Liban ce matin retrouver Omar Waman, correspondant de Radio France à Beyrouth. Salam alaikum Omar.
Allez, comment salam, Frédéric?
Alors, on a appris en début de semaine que Romain Caillé, un chercheur français spécialiste des mouvements djihadistes, avait été interdit d'entrer au Liban. Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on sait pourquoi?
Il a été refoulé, hein. Il vivait au Liban depuis presque 5 ans. En fait, selon plusieurs sources à la Sûreté Générale, qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur en France, c'est elle qui a pris la décision de le refouler. Eh bien, Romain Caillet serait soupçonné d'être lié à des organisations terroristes. Une accusation très très grave pour ce jeune chercheur. Il est chercheur notamment pour l'Institut français du Proche-Orient de Beyrouth, qui était devenu, Romain Caillet, en quelques années quasiment incontournable sur la question du djihadisme. Tous ceux qui l'ont fréquenté au Liban, comme moi, considèrent que cela n'a aucun sens. Romain Caillet s'est défendu en disant que c'était en raison de ses prises de position sur le Hezbollah, prises de position notamment sur Twitter, très hostiles, voire très dures, tout comme sur l'armée libanaise, qui est un sujet très sensible ici au Liban, surtout depuis le mois d'août dernier, les affrontements entre l'armée et les groupes djihadistes le long de la frontière syrienne. Tout cela a contribué à le rendre indésirable, d'autant que Romain Caillet est un musulman converti. Il serait même d'obédience salafiste. Ça, je ne le savais pas. Ça a été révélé dans le Monde. Ce qui ne l'a pas aidé dans cette affaire. Mais pour nous, journalistes, Romain Caillet reste une source fiable qui nous a notamment aidé à mieux appréhender le mouvement Daesh, l'organisation État islamique. Mais cette affaire, Frédéric, illustre en fait la surveillance très serrée dont font l'objet depuis plusieurs mois les étrangers au Liban, les journalistes et évidemment les chercheurs, mais aussi les membres d'ONG.
Alors, autre sujet, Omar, que l'on doit regarder de près au Liban, j'imagine, ce sont les élections israéliennes, elles ont lieu dans 10 jours maintenant. Est-ce qu'il y a eu des commentaires chez vous, notamment sur le voyage aux États-Unis du Premier ministre Netanyahou et la leçon de diplomatie qu'il a infligée à Barack Obama ?
Oui, ce voyage a été particulièrement suivi par la presse libanaise et les commentaires, vous l'imaginez, étaient très virulents. Netanyahou a été qualifié de personnage prétentieux, arrogant, dangereux par plusieurs publications, allant même jusqu'à écrire qu'Israël était gouverné par, je cite, un premier ministre belliqueux. Et puis, il faut savoir qu'ici, tout le monde a en mémoire la guerre de 2006 entre l'État hébreu et le Hezbollah, et plus récemment l'élimination de plusieurs cadres du mouvement chiite, ainsi qu'un général iranien tué en Syrie par une frappe israélienne, ce qui a fait couler beaucoup d'encre. En représailles, le Hezbollah avait ciblé un convoi israélien, tuant deux soldats. Le risque d'un conflit généralisé entre les deux ennemis jurés était très grand, mais finalement la tension est redescendue, en raison notamment de l'implication du Hezbollah en Syrie, qui n'a pas les moyens de mener deux fronts à la fois. Ces élections israélienne, il faut y revenir, les Libanais vont évidemment les suivre de très près et de nombreuses voix redoutent une victoire de Bibi Netanyahou, synonyme de nouvelle guerre au sud dans la bande de Gaza contre le Hamas et au nord contre le Hezbollah d'Hassan Nasrallah.
Omar Oman, merci, correspondant de Radio France et donc de France Culture à Beyrouth. Merci. Le clin d'œil de la semaine, Yacine Bouzard.
Des stars devront croire ce qu'on va leur dire, sachant que moi, je dis toujours la vérité.
Bien sûr.
Bien sûr. Et des stars devront croire ou Kev, ou moi. Ou moi, ou Kev. Et si on faisait une démonstration pour que tout le monde comprenne?
Ah ouais, la démonstration.
Regardez, première affirmation. Écoutez bien, première affirmation.
Bonjour, on l'a donc appris il y a quelques instants, la mort de Martin Bouygues. Il avait 62 ans, le patron du groupe Bouygues est décédé ce matin dans sa résidence de l'Orne.
Alors le public, si vous pensez que c'est la bonne affirmation, levez la main. Regardons la réponse.
Quelques minutes plus tard, coup de théâtre, le groupe TF1 dont Martin Bouygues est propriétaire dément formellement l'information.
Voici la deuxième partie, nous avons joué pour 500 euros. On joue maintenant pour 500 euros. Écoutez bien, voici la première affirmation, elle vient de moi, et c'est vous dire si elle est vraie.
Côté thermomètre, après les petites gelées du matin, vous aurez souvent 10 à 12 degrés cet après-midi.
C'est intérêt à être vrai. Alors,
on joue pour 500 euros. Vérification.
Allez, c'est vrai.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On joue pour 500 euros. Je rappelle qu'au début, l'argent n'a pas été gagné. Et c'est la bonne réponse.
Yacine Bouzard, signé le clin d'œil de l'émission et de la semaine. Merci à tous. L'émission touche à sa fin. Merci à nos invités. Michel Héridon, directrice de l'information de l'AFP. Alice Antôme, journaliste spécialiste des médias, directrice adjointe de l'école de journalisme de Sciences Po. Et également, on peut vous retrouver dans l'émission Média Le Mag tous les dimanches, c'est-à-dire demain sur France 5. Alexis Delcambre était avec nous également, journaliste au Monde et responsable du pôle Technomédia. Omar Oman, merci, que l'on vient d'entendre, correspondant de Radio France à Beyrouth, et nos deux regards extérieurs aujourd'hui de l'émission qui nous ont accompagnés, Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste du droit des médias, et Thibaut Henton pour les images et le web dans les coulisses de l'émission. Les indispensables, Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr avec aux manettes aujourd'hui Bruno Gagnère. Dans un instant, le journal de Julien Lagage suivi de réplique. Big Brother est-il parmi nous? Alain Finkielkraut reçoit les journalistes Laurent Geoffrin et Laurent Oberton. C'était Le Secret des Sources sur France Culture. À retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique, bonne journée sur Culture.
Je dirais que c'est un classique de la vie des rédactions que de reprendre les dépêches de l'AFP sans estimer à ce stade qu'il est utile de les confirmer. Je pense que c'est encore plus vrai dans le cas de disparition où vraiment voilà, c'est une source qui fait foi.
Effectivement, au contraire, l'émergence des réseaux sociaux nous pousse pour privilégier encore plus la fiabilité. C'est-à-dire que la fiabilité et la crédibilité doit primer absolument sur la rapidité. Quelque part, voilà, on s'en fiche un peu d'une minute, deux minutes.
Enfin, par rapport à cette affaire, la spécificité, c'était que ça soit un samedi. Un samedi, dans toutes les rédactions, que ce soit à l'AFP ou au Monde.fr, ou au Monde ou ailleurs, souvent on est malheureusement en effectif un petit peu plus réduit.